Radio Okapi.
Le journal Believe en Lutumba.
Fini le calvaire et désespoir pour les humanitaires faits otages vendredi par un groupe des miliciens de la Codeco dans le village Gopa. Depuis samedi, grâce au plaidoyer des membres de la communauté Laurier des chefs coutumiers avec l'appui des services de sécurité, ils ont recouvré leur liberté et nous en parlons en début de ce journal. L'actualité en ce week-end, c'est ce lancement hier des travaux de construction des rocades, ces routes périphériques autour de la ville de Kinshasa. À suivre dans cette édition, l'appel du gouverneur Daniel Bumba Okinwa pour accompagner ce projet en veillant sur l'exécution des travaux et les engins. Kimwanga Kisimba, porte-parole des agents de la SNCC, c'est lui que nous recevons comme invité en fin de ce journal. C'est pour parler du dossier de la spoliation des parcelles des agents de la SNCC à Kindu, au Maniema. Radio Okapi, toujours à votre service de l'information, mesdames et messieurs. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir. À Ituri, certains humanitaires pris en otage vendredi par un groupe des miliciens de la Codeco dans le village Gopa dans le secteur de Walendu-Diati ont été libérés samedi par leurs ravisseurs. C'est grâce au plaidoyer mené notamment par les membres de la communauté Lori et des chefs coutumiers avec l'appui des services de sécurité. Dans une déclaration à la presse ce dimanche, les notables de cette entité déplorent que ces humanitaires qui viennent en aide aux sinistrés soient pris pour cible par ces miliciens. Le porte-parole de la communauté Lori demande aux leaders de la Codeco de respecter leur acte d'engagement de paix et à imposer la discipline au sein de leur groupe armé. Paul Matata est joint au téléphone par Ezekiel Mouzalia.
La communauté a besoin d'aide. Ce sont les humanitaires qui peuvent nous assister avec leurs propres moyens. Ils ne devaient pas les toucher, même les déranger, même si la situation est terrible. Nos membres de la communauté, nous demandons à l'IRDPC de garder sa position après l'acte d'engagement qu'il avait fait avec le gouvernement. Nous demandons à nos frères qui sont dans l'IRDPC Codeco de ne pas faire honte sur la communauté, vu que c'est la communauté qui a besoin d'aide, la communauté qui dit les enfants, les vulnérables, les femmes, les vieux, les vieillards, les femmes, les filles, même les écoliers, même les étudiants ont besoin d'aide. L'IRDPC Codeco doit bien contrôler ses membres et bien les rediquer afin qu'ils puissent obéir, qu'ils puissent respecter l'acte d'engagement, qu'ils puissent respecter les humanités qui viennent à l'assistance de la communauté.
Nous restons en Ituri où le président du parti politique Union des Patriotes Congolais UPC déplore la détérioration de la situation sécuritaire qui affecte le développement économique de plusieurs entités lacustres au bord du lac Albert. Il a dit samedi au cours d'un rassemblement populaire à Chomia, entité située à plus de 60 km de la ville de Bunia dans le territoire des Djougou. Pour Thomas Lubanga, cette entité regorge plusieurs potentialités sur le plan économique, notamment la pêche, le commerce ainsi que l'agriculture pour son décollage. Il invite ceux qui détiennent les armes à les déposer et la population à s'investir pour relever l'économie de cette entité en initiant des projets de développement. Un extrait de ses propos est choisi par Ezekiel Mouzalia.
Le mal chez nous ici, c'est l'insécurité qui persiste. Notre volonté tous, c'est le développement, pas des conflits et des guerres inutiles. Le centre de Chomia est très riche. Nous avons la pêche ici et c'est une activité très rentable. Et si nous cessons avec des conflits, avec cette activité, nous allons développer cette entité. Et nous pourrons encore l'améliorer davantage. Et je vous assure que c'est l'un de nos projets. Et nous allons d'ailleurs parler avec les pêcheurs. Chomia, c'est aussi une zone d'élevage. Avec l'élevage des vaches, nous devons également mettre un accent particulier à cela. Nous devons l'améliorer, qu'il nous donne plus de bénéfices que ce qu'il nous donne aujourd'hui.
Nord Kivu à présent, 6 civils ont été tués en l'espace d'une semaine dans la ville de Butembo, dont la plupart par vindicte populaire. La société civile de la commune de Boulengera, qui rapporte ce bilan, exprime son inquiétude face à ce phénomène devenu récurrent dans cette ville. John Kameta, président de cette structure citoyenne, interpelle la population face à cette situation qui, selon lui, fait le jeu de l'ennemi. Il plaide pour l'implication des autorités pour garantir la protection des civils. John Kameta est au téléphone de Grévis Salumu.
C'est quand même un bilan très alarmant car dans une ville, à l'espace d'une semaine, on peut enregistrer autour d'autant de personnes qui sont brûlées parce que peut-être ils ont été suspectés d'avoir volé ou d'avoir été l'auteur de ceci ou de cela. Je crois que il y a lieu quand même de se poser une question. On serait en train de jouer à faveur même de celui qui est en train de nous tuer chaque jour. C'est pourquoi nous devrions nous mettre, nous comme citoyens de la ville de Butembo, et comprendre que le mal est trop profond. On ne doit pas quand même jouer avec la vie humaine parce qu'elle est sacrée, mais on a l'impression de comprendre qu'aujourd'hui, pour éliminer la vie d'une personne, ce n'est plus un tabou, parce que parmi les 6 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui a perdu sa vie par la voie sécuritaire. Nous interpellons la conscience des autorités de la ville de Butembo, également celle de la population de Butembo, que nous devrions vraiment comprendre que c'est vraiment un grand danger que nous sommes en train de courir derrière.
Nous restons dans le Nord Kivu pour parler de ces déplacés de guerre des sites de Kashaka et Chabindou dans le quartier Mugunga qui ont été sensibilisés ce week-end sur la prévention des conflits, leur résolution pacifique et le vivre ensemble. L'initiative est de l'organisation Africa Inclusion. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d'urgence en faveur des déplacés des guerres venus de Masisi, Sake et Rutshuru vivant dans des sites des déplacés autour de Goma. Le but est de prévenir des conflits qui pourraient naître entre ces déplacés. Denise Loukesso nous en parle.
D'après la coordinatrice adjointe des Africa Inclusion, lorsque les gens sont en déplacement, ils viennent des origines différentes, ils ont des comportements différents. Certainement, il y a aussi des différends ou conflits qui peuvent les opposer. C'est dans ce sens de prévenir tout justement ces conflits que Africa Inclusion a initié cette sensibilisation, comme le dit ici Madame Arline Barichouti.
Il est certain d'avoir des conflits là où il y a une grande diversité, comme dans les sud de déplacés. Il y a surtout des conflits liés à la distribution de l'aide humanitaire. Et comme les conflits sont inhérents à la vie, il est quand même important de le prévenir. Nous soutenons le déplacé pour qu'il sache comment les résoudre pacifiquement afin de continuer de vivre ensemble.
Joseph Mumbeni, gestionnaire du site des déplacés Kashaka Chabindou, s'est dit désormais ambassadeur de la paix. Il parle de son apport pour prévenir les conflits une fois retourné dans son village.
Il y aura des problèmes de logement, terre et propriété. Il y aura des conflits qui vont nous suivre dans nos villages. Il y aura encore des conflits plus que ce que nous vivons ici. Et en tant qu'ambassadeur de la paix, je suis en train de rentrer chez moi avec un cri. Je vais continuer les sensibilisations dans le village.
En plus de ces échanges, l'organisation a fait un don en vivres et non vivres aux personnes sensibilisées. Goma, Denise Louquet, sur Radio Capi.
À Kinshasa, il est 18h08, construction des rocades, ces routes périphériques autour de Kinshasa. Le gouverneur de la ville-province interpelle tout Kinois à s'impliquer pour que ce méga-projet produise des résultats susceptibles de mettre fin aux multiples embouteillages dans les artères de la capitale. Daniel Bumba Lubaki déplore ces bouchons qui engendrent, selon lui, un impact négatif sur le bien-être de la population, sa capacité de travailler, de produire et sur l'économie de la ville. Il l'a déclaré lors de son adresse du haut de la tribune hier samedi à la cérémonie de lancement des travaux par le chef de l'État. On l'écoute dans cet extrait.
L'exécutif provincial de Kinshasa s'associe à cette initiative qui apportera une solution durable au désengorgement de la capitale. Je tiens à réaffirmer le soutien indéfectible du gouvernement de la ville à ce projet de rocade dans le cadre d'une collaboration étroite avec tous les acteurs impliqués. Je voudrais demander à la société en charge de l'exécution des travaux de nous construire des rocades respectant les standards internationalement reconnus, de nous livrer un ouvrage à la hauteur des attentes de la population et des ambitions de cette ville. J'invite en même temps les Kinoises et Kinois, premiers bénéficiaires de l'ouvrage à construire, de faire preuve d'un sens élevé de citoyenneté en respectant les chantiers et en protégeant les matériaux et les agents qui seront déployés. La réalisation de ces rocades est une ambition affirmée de relever le défi majeur qui est celui de l'amélioration substantielle de la mobilité urbaine.
À Lubumbashi, un baromètre pour l'évaluation des projets sous la responsabilité sociétale des entreprises minières a été mis sur pied le vendredi dernier. C'est l'œuvre des deux structures de la société civile, à savoir l'Observatoire africain des ressources naturelles, AfriWatch, et du Bureau d'études scientifiques et techniques, BEST. L'objectif visé est d'amener les entreprises minières au respect du code minier, notamment dans son volet portant sur la responsabilité sociétale des entreprises. On écoute Emmanuel Umpula, directeur général de AfriWatch, au micro de Jean Gandou.
L'outil a quatre composantes: les droits humains, l'environnement, la sous-traitance et le développement communautaire. Ces piliers-là, appelés les piliers de la responsabilité sociétale, vont nous permettre d'évaluer, entreprise par entreprise, le respect des engagements par rapport aux communautés. Nous espérons que le premier baromètre sera publié d'ici la fin de l'année. Chaque année, cela permettra non seulement de savoir ce que les entreprises font, mais aussi permettra aux entreprises de tirer les meilleures pratiques que les autres entreprises réalisent dans les mêmes domaines qu'elles. Ça permettra aussi aux investisseurs de voir quelle est l'entreprise qui a de bonnes pratiques dans laquelle ils peuvent injecter de l'argent. C'est vrai que dans le passé, il y a eu un guide sur la responsabilité sociétale. Mais ici, nous allons un peu plus loin en mettant un outil qui va commencer à évaluer sur base d'un critérium beaucoup plus scientifique pour juger de la pertinence des projets que les entreprises mettent en œuvre dans le cadre de leurs projets sous la responsabilité sociétale.
Bonne nouvelle pour les hôpitaux généraux de référence de Beni et Butembo au Nord Kivu. Bientôt, les pénuries d'oxygène appartiendront au passé. Vendredi dernier, du matériel d'assemblage pour des usines de production d'oxygène médical a été réceptionné à Beni et Butembo. C'est le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, le commissaire supérieur Romuald Ekuka Lipopo, qui a présidé la cérémonie de remise du dit matériel à Beni. D'ici à 10 jours, les hôpitaux généraux de référence de Beni et Kita Tumba de Butembo vont disposer chacun d'une unité de production d'oxygène pour les malades d'une capacité de 2500 litres par jour. Pour le docteur Jérémy Muhindo, médecin directeur de l'hôpital général de référence de Beni, cette dotation du gouvernement répond à un besoin qui se faisait sentir dans la région de Beni, Butembo, Lubero. Il le dit au micro de Grévis Salumu.
La demande en oxygène était criante. Les cas graves nous posaient toujours des problèmes. Les vies humaines qui, par manque d'équipement, par exemple, si le malade est évacué dans de mauvaises conditions, si c'est un malade qui nécessitait une évacuation sous assistance respiratoire, faute d'équipement adéquat, nous avions des difficultés à récupérer certains malades. Imaginez-vous s'il faut évacuer un malade, faire une centaine de kilomètres, alors que c'est un malade qui doit être évacué sous assistance respiratoire. Il y a des vies qui périssaient comme ça parce que nous n'avions pas ce genre d'équipement. Je pense avec cette acquisition, c'est vraiment une réponse pour que nous puissions sauver les vies que nous n'arrivions pas à sauver. Donc, il ne sera plus question que les gens aillent s'approvisionner dans les autres pays voisins. C'est quelque chose qui va répondre aux besoins non seulement des hôpitaux, mais aussi pour certaines industries aussi qui peuvent avoir besoin de l'oxygène pur pour fabriquer ces sources-là.
Nous poursuivons cette tournée d'actualité à travers le pays et nous rentrons à Lubumbashi où le consulat général d'Afrique du Sud a célébré le vendredi 21 juin le 30e anniversaire depuis l'organisation des premières élections démocratiques du 27 avril 1994. À cette occasion, la consule générale sud-africaine s'est félicitée des bonnes relations qui existent entre son pays et la RDC. Elle s'est dit heureuse de la liberté acquise et de la maturité démocratique du peuple sud-africain, démontrée notamment lors des élections du mois dernier. Nosiselo Mbele est au micro de Jean Gandou.
Personnellement, je suis contente de ce qui a été fait en Afrique du Sud, de ce que nous avons obtenu, notre indépendance. Autrement, je ne serais pas ici comme consul général, parce qu'avant, nous n'étions pas autorisés à participer à quoi que ce soit. Pour cela, je suis très heureuse également pour tout le peuple sud-africain, pour cette liberté acquise, car par cette liberté, nous avons eu l'opportunité de faire ce que nous ne pouvions pas faire avant, raison pour laquelle je suis très contente. Et par rapport à la célébration du 30e anniversaire de la liberté, j'aimerais demander aux Sud-Africains de prendre soin de cela et se rassurer que les générations futures vont bénéficier de toutes ces réalisations. Les élections du mois de mai dernier sont une preuve que le peuple sud-africain a grandi en maturité, a cessé d'exprimer librement. Il faudra
Actualité internationale.
Le gouvernement égyptien a joué la carte de la fermeté contre des compagnies accusées d'avoir organisé des pèlerinages illégaux à la Mecque. Révocation des licences, renvoi des dirigeants devant la justice et imposition d'amendes pour soutenir les familles des victimes. Ces mesures ont été prises samedi par le Premier ministre. Elles interviennent après la mort des 658 ressortissants égyptiens lors du Hajj cette année. Et puis Vladimir Poutine a déclaré qu'il était prêt à discuter avec les pays membres de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le chef de l'État russe a fait ses déclarations vendredi alors qu'il recevait les diplômés des écoles militaires et de maintien de l'ordre à Moscou. Le chef du Kremlin attend désormais la réaction de l'OTAN.
L'invité.
Comme dit dans le sommaire, notre invité est Kimwanga Kisimba, porte-parole des agents de la SNCC. Il s'exprime sur le dossier de la spoliation des parcelles des agents de la SNCC Kindu au Maniema. 70 familles des agents de la SNCC ont vu leurs parcelles être vendues à des tierces personnes. Kimwanga Kisimba s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Kimwanga Kisimba, bonjour.
Bonjour, madame.
Ça fait un bon moment que vous, les agents de la SNCC, vous êtes en train de se plaindre par rapport à vos parcelles qui ont été spoliées. Dites-nous, c'est quoi au juste le problème de ces parcelles?
Oui, oui, ce problème date de 2007, l'année où la SNCC avait vendu des parcelles aux agents. Alors, nous avons eu des parcelles du Kamakuta, donc les maisons du Kamakuta nous ont été vendues. Maintenant, les conservateurs des titres immobiliers, ils entrent au camp dans nos propriétés privées et ils morcellent les parcelles qui nous ont été vendues sous prétexte que ce sont des espaces verts, alors que ce n'est pas ça. Ce sont des parcelles des agents. Voilà pourquoi nous nous plaignons et nous voulons alerter l'opinion tant nationale que provinciale qui puisse un peu statuer sur ces problèmes.
Est-ce que quand vous avez attribué ces parcelles, vous avez eu tous les documents pouvant garantir de ces parcelles?
La société nous a remis des contrats. Moi, je pense que c'est nécessaire. Quitte à nous d'aller au service des cadastres pour chercher maintenant les certificats d'enregistrement. Et il y a des agents parmi nous qui ont déjà acquis ces certificats-là. Ils ont les certificats. Mais ça n'a pas suffi. Les conservateurs, après avoir signé les certificats aux agents, il a encore morcelé les mêmes parcelles pour lesquelles il avait donné les certificats. Il a vendu ça à d'autres personnes.
Alors, comment est-ce qu'on peut justifier les parcelles qui ont des certificats délivrés par les services de titres immobiliers et les conservateurs lui-même vient encore une fois de plus vendre ces mêmes parcelles?
Vous savez, dans notre pays, il n'y a pas de justice. Et tout est permis dans ce pays. Et il s'est permis de morceler les parcelles pour lesquelles il a délivré un certificat d'enregistrement et il a signé. Mais avec les nouveaux acheteurs, parce qu'ils sont en train de vendre ces parcelles, ils délivrent encore un autre certificat. Donc, c'est vraiment un désordre bien organisé.
Face à ces désordres, qu'est-ce que vous, les agents de la SNCC, vous faites? Quelles sont les démarches entreprises pour que vous rentriez dans vos droits?
Bon, nous sommes en train de mener toutes les démarches qu'on peut imaginer. Certains parmi nous sont déjà allés en justice avec les gens qui ont spolié leurs parcelles, mais en tout cas, le constat c'est qu'ils n'ont jamais gagné les procès. Les procès se prolongent indéfiniment. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Vous savez comment se présente la justice dans notre pays. C'est pour cela que nous nous tournons maintenant vers les autorités compétentes, et notamment l'Assemblée provinciale. Jadis, c'était l'ANR qui s'était impliquée. Aujourd'hui, nous tournons vers l'Assemblée provinciale pour que l'autorité parlementaire puisse un peu s'impliquer également dans ce problème.
De quelle manière demandez-vous à l'Assemblée provinciale de s'impliquer dans ces dossiers?
En 2009, les conservateurs avaient montré ses ambitions de vendre ces parcelles qui appartiennent aux agents. Les agents étaient prêts à marcher. Alors, les services de l'ANR avaient eu écho de ces velléités de marche, de revendication. Les services de l'ANR s'est impliqué et ils ont constitué une commission mixte. Et les conservateurs de Tilmolier, il a fait partie de cette commission-là. Et on a parlé autour de cette question là et les conservateurs étaient déplumés, si vous me permettez les mots.
C'est ce que vous demandez. Vous êtes au total combien les agents qui réclamaient vos parcelles?
Au Kamakuta, il y a plus ou moins 70 maisons. Donc, c'est 70 familles qui sont en train de réclamer.
Toutes les 70 familles sont en vie?
Non, il y a de nos collègues qui ont déjà perdu la vie sans pour autant accéder à leur parcelle. Et il y en a d'autres qui sont encore vivants, dont moi-même d'ailleurs.
Et s'il arrivait que l'Assemblée provinciale ne réponde pas favorablement à votre entente, qu'est-ce que vous allez encore faire?
Nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons toujours continuer à lutter. Et les moments venus, nous trouverons les chemins, nous trouverons ce qu'il faudra faire ensuite. Si l'Assemblée provinciale croise les bras, bon, nous trouverons toujours un autre moyen.
La saisie de ces parcelles vous inquiète ou bien cause un peu de préjudice dans votre vie sociale?
Évidemment, parce que ces parcelles constituent notre patrimoine. C'est ça, les seuls biens que nous avons eus dans cette carrière ingrate que nous avons passée à la SNCC. Vous savez, un Congolais n'ignore pas qu'est-ce que c'est la SNCC. Avec tout ce que nous avons connu comme un paiement, et nous n'avons rien à léguer à nos enfants. Il n'y a que ça que nous pouvons léguer à nos familles. Donc ça doit vraiment nous chagriner.
C'est que votre demande ne peut pas seulement s'arrêter au niveau de l'Assemblée provinciale.
Oui, oui. Nous allons toujours continuer à lutter. On ne s'arrête pas là. Madame, nous allons frapper toutes les portes imaginables dans ces pays. Même la présidente de la République, nous allons l'atteindre. Parce que toutes les institutions sont là pour le peuple. Et nous y arriverons. Jusqu'à ce que nous puissions rentrer dans nos droits.
Merci, Kimwanga Kisimba. Merci.
Merci, madame.
À propos de ce dossier, contacté, le conservateur incriminé dit ne pas être impliqué, ni de loin, ni de près dans ce dossier. Jacques Selemani Moké fait savoir que ce sont des parcelles vides qui ont été loties. Et ça n'est ainsi fini avec ce journal sur Radio Okapi, préparé par Jacques-Yves Molima, Alain Irung et l'ensemble de toute la rédaction. Jean-Noël Mokondo assure la prise des soins et la mise en onde. Et Billy Van Lutumba vous l'a présenté. Je suis encore avec vous pour vous livrer les autres nouvelles d'actualité sur la FM jusqu'à 19h. Merci de l'attention que vous continuez à nous accorder.